Partie 3. Structurer sa pensée. Tous les mots qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Ainsi parle Cyrano de Bergerac sous le balcon de Roxane. Protégé par la nuit, submergé par l'amour, il laisse le flot de ses émotions s'écouler enfin sans entrave. La scène est poignante, la déclaration bouleversante, l'histoire déchirante. Mais hélas, nous ne sommes pas Cyrano. Si nous désirons convaincre, nous ne pourrons nous contenter de jeter nos arguments en touffe. Il nous faudra bien apprendre à les mettre en bouquet, à organiser notre pensée. Dans le précédent chapitre, nous avons vu comment constituer un inventaire de tous les arguments disponibles pour progresser ensuite vers l'élaboration d'une véritable ligne argumentative, c'est-à-dire un ensemble d'arguments cohérents les uns à l'égard des autres et adaptés à l'auditoire. Encore nous reste-t-il à donner à ces arguments une structure, un ordonnancement, une articulation, à les introduire par une accroche saisissante et les conclure par une clôture percutante. Tout ce travail, c'est ce que les anciens, Cicéron notamment, appelaient la disposition, la deuxième étape à suivre dans la construction d'une argumentation. Dans cette partie, nous nous concentrerons principalement sur les prises de parole monologiques, qu'elles soient orales ou écrites, un discours, une présentation ou une vidéo, mais aussi une lettre, un communiqué ou une tribune. La question des interactions avec un interlocuteur, que ce soit pour le convaincre ou pour le vaincre, sera traitée plus loin. Chapitre 1. Cadrer son propos. Dans la partie précédente, nous avons surtout envisagé la question de la sélection des arguments, en nous demandant quels étaient ceux qu'il était opportun de mobiliser face à un auditoire donné. Cette étape était essentielle, mais elle laisse encore dans l'ombre plusieurs questions très concrètes auxquelles, en tant qu'oratrice ou orateur, nous aurons à faire face lors de la préparation de notre intervention. Comment formuler notre idée directrice? Combien d'arguments allons-nous choisir de déployer? À quelle qualité devons-nous donner la priorité? La clarté, l'élégance, la concision, l'exhaustivité? Autant d'interrogations dont dépendent en partie nos chances de succès. 1. Identifier l'idée directrice. La recherche de la conviction peut prendre bien des formes, des plus concises aux plus longues, des plus formelles aux plus relâchées, des plus libres aux plus codifiées. Toutes néanmoins ont une chose en commun, elles sont guidées par une idée directrice. Une ligne de force, un fil rouge qui va traverser l'intervention et venir cristalliser en seulement quelques mots la position défendue. C'est cette idée directrice que nous devons avoir à l'esprit, gravée en lettres incandescentes lorsque nous prenons la plume ou la parole. Très concrètement, cela implique que nous devrions être capables de formaliser notre position en une seule et unique phrase. Une phrase pour exprimer ce dont nous voulons convaincre, une phrase pour condenser notre pensée. Ainsi, et pour paraphraser le poète Nicolas Boileau, en rhétorique, ce qui se conçoit bien doit tenir dans l'espace qui sépare la majuscule du point. Cette question est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. En nous contraignant à ramasser ainsi toute notre argumentation, nous nous forçons à aller au cœur de l'essentiel, à laisser de côté les détails, les précisions, les nuances qui, certes, ont leur importance, mais ne devraient jamais nous faire oublier le plus crucial, l'impact que nous cherchons à avoir sur notre auditoire. En gardant cette idée directrice à l'esprit, en nous forçant à la voir sous les yeux lorsque nous entreprenons de structurer notre argumentation, certains dilemmes délicats se trancheront d'eux-mêmes. Quel passage allons-nous développer ? Ou au contraire résumer? Quels exemples devons-nous conserver ou au contraire supprimer? Que nous faut-il dire en conclusion, en introduction? autant d'interrogations dont les réponses découlent, directement ou indirectement, de notre idée directrice. En ayant pris le temps de la formaliser, nous gagnons déjà, consciemment ou non, en force de conviction. Étude de cas. Expert en éloquence, je m'apprête à prendre la parole lors d'une journée de conférence. En face de moi se trouvent des chefs d'entreprise, des directeurs des ressources humaines, des responsables politiques, syndicaux et associatifs. Mon objectif est très clair, inciter les auditeurs à suivre une formation en prise de parole, ou, pour être plus précis, à suivre ma formation en prise de parole. Au moment de préparer mon intervention, les idées se bousculent dans mon esprit. J'aimerais donner quelques conseils pratiques, parler de l'exemple de Martin Luther King, montrer l'importance de la parole au quotidien, évoquer mon histoire personnelle, aborder l'importance du corps et de la voix. Alors que je commence à me noyer dans ces réflexions, une phrase s'impose alors comme une évidence. Tout le monde peut devenir un bon orateur ou une bonne oratrice. Il suffit d'apprendre à respecter quelques conseils simples. Voilà ce dont j'ai vraiment envie de convaincre. Muni de cette ligne directrice, l'organisation de mon propos m'apparaît soudain plus clairement. Décryptage. L'opération à laquelle nous nous sommes livrés ici peut sembler d'une grande banalité. Mais ne nous y trompons pas. Dégager notre idée directrice est souvent moins simple qu'il n'y paraît. Plus nous travaillons notre sujet, accumulons des connaissances, développons une expertise, et plus nous risquons de perdre de vue ce dont nous étions partis, l'essentiel, le crucial, l'épure, qui réduit notre idée à sa plus simple expression. C'est à cela que nous devons revenir si notre désir est d'emporter la conviction. 2. Choisir le bon nombre d'arguments. Il existe un exercice malicieux auquel les professeurs de rhétorique peuvent confronter leurs élèves. Il consiste simplement à leur demander « D'après vous, de combien d'arguments avons-nous besoin pour convaincre ?» Immédiatement, les réponses fusent. « 2, 3, parfois une pointe d'audace. 4, voire une once de provocation. 42, 666, jusqu'à ce que, enfin, d'une voix souvent peu assurée, se fasse entendre le début d'une réponse sensée. Mais un seul, ça peut suffire, non? Cet exercice n'est pas anodin. Il illustre le poids que fait peser sur nos esprits le carcan de la dissertation argumentée à laquelle nous sommes formés au cours de nos études. La méthodologie en est invariable et le plan fixé par avance. Selon la préférence de l'enseignant, la tradition de la discipline et l'inspiration de l'élève, il comportera au choix 2 ou 3 parties, pas une de plus. Plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, ou antithétique, d'une part, d'autre part, en dehors de ces sentiers balisés depuis des décennies par des millions de copies, point de salut. Voilà pourquoi, spontanément, nous avons tendance à imaginer que 2 ou 3 arguments constituent le socle idéal pour une bonne intervention. Or, cela n'a aucun sens. En tant qu'oratrice ou orateur, l'essentiel n'est pas de nous conformer à un nombre théorique d'arguments, mais, bien évidemment, de toujours nous adapter au contexte et au sujet de l'intervention. En premier lieu, le contexte. Il est bien évident que, pour défendre une position donnée, nous n'allons pas employer la même argumentation si nous disposons d'une minute ou d'une heure, de 10 lignes ou de 10 pages. À cet égard, la question du nombre d'arguments se pose en des termes bien différents de celle de l'élaboration de la ligne argumentative. Imaginons que, face à notre feuille de papier, nous ayons articulé notre ligne autour de 5 arguments pivots, qui nous semblent à la fois efficaces, rigoureux et cohérents entre eux. Dans la réalité, il ne sera pas nécessairement possible ni opportun de tous les déployer. Que notre intervention soit courte ou nos auditeurs distraits, et nous devrons nous résoudre à ne pas tout dire. Nous devrons faire des choix. En ce sens, le bon nombre d'arguments, c'est celui qui est adapté au temps dont nous disposons et à l'attention que les auditeurs nous témoignent. En second lieu, le sujet de l'intervention. Lorsque nous élaborons notre ligne argumentative, il se peut qu'elle finisse par se ramener en tout et pour tout à deux ou trois arguments dont nous estimons qu'ils sont susceptibles d'avoir de l'impact sur notre auditoire. Nous serons alors en terrain connu. Il peut arriver également qu'elle soit beaucoup plus étendue, 4, 5, 7 arguments. Auquel cas, tant mieux, nous pourrons choisir ceux qui nous semblent les mieux adaptés au contexte dans lequel nous parlons ou écrivons. Mais il peut également surgir une situation où, sur un sujet donné, face à un certain auditoire, notre ligne argumentative se ramène à un unique argument. Lui seul nous aura semblé suffisamment rigoureux ou efficace pour pouvoir être employé. Dans ce cas, la tentation sera grande d'aller repêcher un ou deux éléments écartés de prime abord. Confronté à la peur du manque, du vide ou de l'insuffisance, nous pourrions consentir à diminuer nos exigences. Accepter de laisser un ou deux arguments plus frêles s'échapper de notre bouche ou de notre plume. Ce serait une grave erreur. Par définition moins rigoureux ou efficace, ces arguments supplémentaires risqueraient de dévaloriser l'intégralité de notre ligne argumentative. Ils en constitueraient les maillons faibles, susciteraient le doute chez nos auditeurs et la contre-attaque de nos adversaires. Notre ligne argumentative n'est constituée que d'un seul argument, eh bien soit, nous l'emploierons sur tous les tons, sous toutes les formes, avec tous les exemples. Mais quoi qu'il arrive, n'affaiblissons pas nous-mêmes notre ligne en lui adjoignant des arguments supplémentaires, fragiles ou peu impactants. La bonne pratique au fond est simple, le bon nombre d'arguments, c'est le nombre de bons arguments. Étude de cas. En sortant du travail avec quelques collègues, nous décidons d'aller boire un verre. La discussion dérive et, deux bouteilles de vin en planche de fromage, finit par accoster sur un sujet sensible, la peine de mort. Comme l'immense majorité des personnes présentes, j'y suis opposé. L'un des convives déclare qu'il est au contraire pour son rétablissement et défend son propos avec fougue. Voyant qu'une partie des auditeurs ne sont pas insensibles à ces arguments, je décide de m'en mêler. Je pourrais bien sûr commencer par disserter sur l'absence de valeur dissuasive de la peine de mort, enchaîner en ébauchant une grande comparaison internationale et conclure en évoquant la valeur sacrée de la vie humaine. Mais tous ces arguments nécessitent du temps et de la précaution pour être déployés efficacement. Ici, dans un bar, après le troisième verre, je peux déjà anticiper ce qui va se passer. Je serai coupé, caricaturé, ridiculisé et vaincu. Je décide donc de me retrancher sur l'argument abolitionniste qui me semble le plus simple et le plus percutant. Aucun tribunal n'étant infaillible, une justice qui exécute les coupables assassine aussi des innocents. Personne ne peut le nier et personne ne devrait l'accepter. Je ferai de cet unique argument mon bastion. Tant que mon interlocuteur ne parviendra pas à l'ébranler, ce qui n'est pas chose aisée, je devrai conserver la faveur des auditeurs. Décryptage. Dans cette situation, nous ne pourrons évidemment pas nous contenter de répéter notre argument en boucle. Si nous ne voulons pas donner l'impression de radoter, il nous faudra introduire sans cesse de nouvelles variations, diversifier nos formules, convoquer de nombreux exemples, forger des métaphores, trouver des citations. De cette capacité à renouveler notre argumentation dépendront nos chances d'emporter la conviction. Employer un seul argument n'implique pas de ne dire qu'une seule chose. 3. Privilégier la clarté et la concision. Lorsque nous préparons le plan d'une intervention, nous avons généralement deux exigences à l'esprit, l'exhaustivité et l'élégance. Nous voulons être sûrs de tout dire, sans rien oublier, ni laisser de côté. Nous cherchons également à organiser nos idées avec originalité, afin de marquer les esprits par la finesse de notre pensée. Aussi louables qu'ils paraissent, de tels objectifs se révèlent délétères. Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher, disait Antoine de Saint-Exupéry. Ce précepte s'applique à la rhétorique avec une importance toute particulière. Que notre intervention soit trop longue et nous perdrons l'attention des auditeurs, encombrés de développements superflus et nous éclipserons les points essentiels, délayés ou redondantes, et nous susciterons l'ennui. Au contraire, plus notre argumentation sera ramassée, resserrée, condensée, et plus elle sera percutante, incisive, mémorable. Lorsque nous préparons le plan de notre intervention, il faut donc lutter contre notre tendance naturelle à tendre vers l'exhaustivité pour viser au contraire la concision. Dire tout ce qui est nécessaire, mais seulement ce qui est nécessaire. Bien sûr, nous devons également nous garder de l'excès inverse. Si notre argumentation est trop dense, elle risque d'être mal comprise et difficilement acceptée. Mais le plus souvent, c'est plutôt par surabondance que les oratrices et orateurs ont tendance à pécher. Aussi pouvons-nous retenir ce conseil. En règle générale, moins nous serons longs et plus nous serons convaincants. La simplicité est la sophistication suprême, disait Léonard de Vinci. Là aussi, ce conseil trouve un écho tout particulier en ce qui concerne la structuration de notre argumentation. Lorsque nous travaillons notre plan, nous pouvons être tentés de nous détourner des architectures trop classiques ou évidentes pour chercher la complexité ou l'originalité. Ce faisant, nous nous méprenons sur le rôle même du plan en rhétorique. Sa principale vertu n'est pas d'impressionner ceux qui nous écoutent, mais de les guider. Notre objectif premier devrait être de minimiser les efforts que nos auditeurs ont à fournir pour se repérer dans notre propos, comprendre l'articulation de notre pensée et saisir la logique de notre raisonnement. L'élégance, la sophistication, la singularité viendront après. Dans le choix des figures, le ciselage des formules, l'inventivité des exemples. Mais en ce qui concerne le plan, c'est la clarté que nous devrions viser. Moins nos auditeurs auront de difficultés à nous comprendre et plus nous aurons de chances de les convaincre.